tout en nous demandant ce qui se passe lorsque le théâtre n'est pas pensé en fonction de l'effet qui est supposé produire de ce qu'il voit, mais en fonction de l'effet qui est supposé produire, engager, retenir, contre ce qu'il veut. Alors, j'ai imaginé quatre étapes, il va venir s'en ajouter une cinquième. La première étape, elle m'a paru obligée, c'est l'affaire du théâtre pédagogique ancien, du théâtre pédagogique de l'époque pré-classique ou classique. Et en particulier, nous allons nous occuper du théâtre des jésuites, et puis du gros massif du théâtre des jésuites, et puis d'une expérience plus singulière qui est l'expérience des demoiselles de Saint-Cyr. Alors, le théâtre des jésuites, bon, nous avons beaucoup de chance. Écoutez, je vais vous dire, tous les gens que nous avons sollicités, y compris des gens que je ne connaissais pas du tout, y compris des gens qui sont des immenses spécialistes des questions que nous avons, hein, sont des mines de savoir, tous les gens ont des mines. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est parce que nous sommes dans cette salle, voyez, beaucoup de vertus, malgré c'est peut-être des fonds provisoires. En tout cas, ils ont tous des mines. Donc, j'ai la surprise, je le connais pas en même temps que vous, parce que je ne le connais pas, j'ai invité, comme ça, Jean-Marie Valentin, qui est le plus grand spécialiste du théâtre des jésuites, qui est un immense érudit, et qui d'ailleurs, ça nous intéresse par ailleurs, même si c'est un peu paradoxal et inattendu, c'est un très grand germaniste, Jean-Marie Valentin, c'est un professeur en Sorbonne. Et d'ailleurs, il est par ailleurs, il fait beaucoup de choses dans le domaine de la culture germanique, Jean-Marie Valentin, mais il est par ailleurs l'éditeur de Brecht, dans la Pléiade. Alors évidemment, c'est une connexion qui va nous intéresser et sur laquelle nous allons essayer de le titiller un peu. Donc Jean-Marie Valentin, j'ai cité un de ses livres, il y en a des dizaines, Julien a ça dans ses papiers, et on va avoir, la surprise et la joie de parler avec lui. Immédiatement après, nous parlerons avec Georges Forestier, vous savez, c'est un très grand spécialiste du théâtre classique français et qui a rénové les études sur le théâtre classique français, mais nous n'avons pas à l'interroger là-dessus, c'est pas le champ, c'est un spécialiste de dramaturgie, mais nous allons l'interroger sur Racine et sur l'expérience des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des demoiselles de... Comment on appelle ça? La maison de Saint-Louis à Saint-Cyr. Voilà. La maison de Saint-Louis à Saint-Cyr, c'est-à-dire l'institution pour laquelle Racine, je crois, pas de titre, mais là je suis complètement ignorant, Racine a écrit ses deux dernières tragédies, c'est-à-dire Esther et Athènes. Il y aura toute une série de gens très, très savants qui vont venir même dans ces séances. Je pense qu'il y a par exemple Laura Lodex qui nous a beaucoup aidé à construire cette partie du programme et qui sera des nôtres, elle ne peut pas être là aujourd'hui. De même que d'autres, d'ailleurs, il y a un colloque, je ne sais plus, à Rennes ou à Tours, où elles sont toutes, mais elles seront des nôtres à partir de la prochaine séance. Bon, c'est par exemple, vous voyez, pour Racine, ce que je voulais demander, c'est comment ça marche, ça, Racine écrivant une pièce, censément, pour les filles, quoi, qui le jouent. C'est-à-dire, en principe, Racine a, dit-on, arrêté de faire du théâtre, il écrit du théâtre, il n'en écrit plus, c'est terminé depuis plusieurs années. Et puis à un moment donné, lui, elle, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils en attendaient, ces gens? Qu'est-ce qui était censé se produire chez ces jeunes femmes, ou chez ces élèves des collèges des jésuites? Vous savez que la pratique théâtrale dans les collèges des jésuites a duré presque jusqu'à nos jours. On ne compte plus le nombre de gens qui disent « Ah oui, moi j'y étais et j'ai fait du théâtre aussi ». Moi, personnellement, mon intérêt a été attiré là-dessus parce qu'il y a un étudiant qui travaille sur Coltès. Et qui s'appelle Brice Herban, et qui sera des nôtres, je pense, dès la prochaine séance, et qui fait une thèse sur Coltès, et qui est de Metz. Lui, il est de Metz, comme Coltès est de Metz, et qui s'est avisé tout simplement que Coltès, qui dit toujours « j'ai découvert le théâtre à 20 ans, à 22 ans, voyant Maria Canaret, etc. » Coltès a passé 12 ans chez les jésuites à Saint-Clément de Metz, et qu'il a fait du théâtre sans arrêt. Ouais. Et donc Brice Herban est allé regarder un peu ça, dans le détail. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé des choses très étonnantes. Savoir qu'est-ce qui se passe dans la formation, et voilà Bernard, dans la formation jésuite de Coltès. Et alors Bernard, comment on va faire? Ça va?
Alors.
Ça va, Bernard? Compliqué?
Bon.
Bah, écoute, bienvenue.
Je vais pas vous vraiment désolé.
Mais ça va très bien. Hein, c'est plus qu'excusé, tu es même accompagné solidairement. Tiens, regarde, il y a plein de chaises. Tu veux qu'il y a un moment pour être avec nous?
Oui, c'est là.
Bienvenue, welcome. Tu as manqué toute la partie à suspense, mais bon.
Non.
C'est malgré la machine. C'est un cas de résistance machinique qui ne veut pas être sans adhérer. Bon. Voilà pour le premier groupe de séance. Deuxième groupe de séance, nous nous intéressons plus à une expérience, mais à une fiction. Une fiction de Diderot qui se trouve dans un texte. Qu'on appelle en général les entretiens sur le vice naturel, c'est un peu plus compliqué que ça, le dispositif de ce texte. Nous intéresserons alors avec nos propres forces à ce texte que nous lirons. Pierre Franz, spécialiste du 18e siècle, devait être des nôtres, mais il ne peut pas être là le jour dit, donc c'est pas grave, on lira ce texte avec nos yeux. Avec nous. Et puis, nous consacrerons également une séance à une sorte apparente digression. Qui est un texte que Eisenstein a consacré lui-même à ce texte de Diderot. Le texte d'Eisenstein s'appelle Diderot a parlé de cinéma. Et nous le ferons avec le concours qui au début était réticent mais très amical, et c'est grâce à lui bien sûr, de Youssef Ishakpour. Youssef Ishakpour est un très grand esprit, qui est quelqu'un qui a une immense œuvre, très grande importance, concernant principalement le cinéma, mais pas seulement. J'ai un peu insisté, puis il a accepté d'être là pour discuter avec nous en disant qu'il n'est pas spécialiste d'Eisenstein, vous le savez, et que quand il lit ce texte, il ne sait pas très bien quoi en penser. Ben, nous non plus, et on mettra en commun nos non-savoirs. Le troisième massif, même si la chronologie sera un peu bousculée, serait ou devrait être le massif brechtien. Alors, c'est très important à mes yeux, nous allons en même temps en profiter pour peu à peu déporter un peu les choses d'un point de vue peut-être un tout petit peu moins historique, érudit, puisqu'on s'approche de nos contemporains, vers un point de vue plus pratique pour le coup. Alors, je sais depuis évidemment un certain temps qu'il y a ce qu'on appelle des pièces didactiques, Stücken de Brecht. Et j'ai toujours été très intrigué par le fait que certaines de ces pièces étaient supposées, pendant un temps au moins, être même légalement interdites à la représentation publique. Et qu'elles donc elles étaient pendant un temps supposées réservées strictement aux exercices d'acteurs. Alors certains esprits hardis ont bravé l'interdit. Vous en avez un à la table, qui s'appelle Hervé Wachmoll, et qui a monté la plus sulfureuse de ces pièces, qui s'appelle La Décision, vu ce spectacle. Et donc, Hervé, la gentillesse de bien vouloir venir réfléchir avec nous au sens de cet interdit de la situation spectatrice, et puis, du coup, qu'est-ce que ça veut dire que pièce didactique? Pourquoi faire? Par ailleurs, Hervé, à la même période, il y a longtemps, et puis en même temps, à la même période, avait également monté une autre pièce dont il m'apprend, j'ignorais totalement, bien que j'ai vu le spectacle, L'Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze, dont il m'apprend que c'était du théâtre didactique et du théâtre didactique dans un contexte protestant. Ce que je trouve extrêmement intéressant à savoir et peut-être à discuter. Après ce massif brechtien, nous aurons ce qu'on pourrait appeler un massif d'ordre brotowski. Alors, là, on a demandé à quelqu'un de venir réfléchir avec nous sur l'expérience brotowskienne, qui en certain sens a toujours été une expérience plus centrée, je crois, je ne dis pas de bêtises, plus centrée sur ce qui se produit dans l'agissant que sur ce qui se produit dans le supposé regardant. Et enfin, ça s'est beaucoup accentué à partir d'un certain moment. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment donné, je ne sais pas si c'est exactement la période américaine ou surtout et aussi la période de Ponte d'Era, la période italienne, cette affaire a été affirmée de façon apparemment très stricte. C'est Georges Banu qui va venir parler de ça. Il y avait d'autres hypothèses, Mais bon, c'est Georges Banu qui est un très grand connaisseur et qui a assisté, c'est le paradoxe, je l'ai dit hier, qui a assisté comme spectateur à une de ces expériences dont le spectateur est supposé être absent. Mais c'est bien un paradoxe dont nous allons parler. En tout cas, aux toutes premières. Il était avec Raymond Tenkin, je crois, première présentation de Brodowski à Pompédère. Donc ça, c'est... Et puis, il y aura aussi... nous aurons aussi à discuter avec des gens dont on peut dire, alors je le dis avec beaucoup de prudence, parce que c'est peut-être pas tout à fait exact. On aurait pu penser à première vue que c'était à certains égards des continuateurs de ce genre d'exigence, c'est-à-dire, j'ai fait une petite erreur dans le texte, mais je crois qu'elle a été rectifiée grâce au soin de Julien, participant à l'atelier permanent de recherche théâtrale. Dirigé par Emmanuel Lestrosi, qui est là, avec deux acteurs, et que je remercie beaucoup de leur présence et d'accepter leur participation. Je crois savoir, par nos discussions récentes, que s'ils ne sont pas exactement, pas seulement, dans la conciliation de Brodowski, néanmoins la référence brodowskienne a beaucoup compté dans la mise en jeu de leur travail. Et puis enfin, la chronologie étant à cet égard un peu modifiée, lorsque j'ai envoyé ce programme aux uns et aux autres, j'ai eu la surprise de me faire engueuler par quelqu'un que j'aime beaucoup par ailleurs, qui s'appelle Michel Corbin, et qui m'a dit « C'est quand même très pénible, on parle toujours des mêmes choses, on parle toujours de Brodowski, etc. Et il y a quand même des expériences formidables dans ce champ dont on ne parle jamais. » Et il s'agissait, entre autres, d'une expérience, en effet, très peu connue, si ce n'est que Michel Corbin y a consacré un immense travail, qui s'appelle le laboratoire Art et Action, qui a eu lieu à Paris au début des années 30, à la fin des années 20, dirigé par deux personnes qui s'appelaient Autant et Lara. J'ai oublié les prénoms. Alors, monsieur et madame. Donc, immédiatement, j'ai réagi en disant à Corbin, chiche, donc viens en parler avec nous. Hein, parce qu'il paraît qu'il y a une expérience de théâtre sans spectateurs chez Autant et Lara. Il y a toutes sortes d'expériences dans ce laboratoire, extrêmement inattendues, curieuses, une grande partie encore sous forme de matériel non connu. Je lui ai dit, allez chiche, allons-y. Et puis il m'a dit, oui, hier soir, j'ai dû le relancer plusieurs fois. Et donc en principe, le 11 janvier, Michel Corbin sera des nôtres pour faire ce travail. Alors je voudrais simplement vous dire que tous ces gens qui sont une mine de savoir, de connaissances, d'érudition, qui n'a rien à voir avec, enfin, en tout cas avec ma connaissance, qui est presque nulle dans un certain nombre de ces cas, connaissances qu'on peut dire à certains égards historiques, érudites, exemple typique étant Jean-Marie Valentin, mais il y en a d'autres, Corbin, etc. Et puis, expérience pratique, bon, chez Hervé, chez Emmanuel, Joseph, Julien, etc. Bien, à ma gauche. Et donc, cette expérience, nous n'avons pas demandé aux uns et aux autres de faire l'objet de conférences. Hein, parce que d'ailleurs, je crois que ça aurait été inimaginable dans les délais qui étaient les nôtres. Et puis aussi parce que ce n'était pas, il me semble, le style, le ton, la manière de ce travail. Nous avons demandé à chacun de ces participants deux sortes de choses. D'abord, d'accepter de répondre à nos questions. C'est à vous que je m'adresse. Puisque si pour y répondre à nos questions, il faut bien qu'on ait des questions. Hein. Donc, je vais en préparer un certain nombre, bien sûr, de façon à ce que ces gens-là ne soient pas là interloqués et quoi devant notre silence. Mais enfin, le jeu du jeu serait que je ne sois pas seul à en poser. Donc, toutes les questions sont les bienvenues. Si vous êtes là à telle séance, ou si d'autres que vous sont là, si ça s'annonce. Et puis, nous leur avons demandé aussi, s'ils veulent bien, s'ils estiment que c'est possible, c'est pas simple à faire dans certains cas, d'apporter un ou des documents. Documents écrits, ou documents iconographiques, ou documents vidéo, qu'il faudra éventuellement tenter de rendre visibles, ou audibles. Documents sonores, je ne sais pas. Il y a par exemple, pour le laboratoire à la réaction, il y a des documents sonores. Pour un Brodowski, je pense qu'il y a des documents vidéo qu'on voit très très peu. Certains sont accessibles, d'autres pas, je pense que, bon, voilà. Ou des documents écrits. Voilà. Alors, soit qu'on puisse reproduire et mettre à la disposition des participants quelques jours avant, par voie électronique ou par voie papier, je sais pas, soit qu'on puisse présenter pendant les séances. Ces documents, on demande quoi, ces documents ? on adresse une question précise. On ne demande pas à Jean-Marie Valentin de nous donner des documents sur le théâtre des Jésuites. Ça n'aura aucun sens. Il y a des milliers de documents, il a consacré des milliers de pages à ça. On leur demande de nous apporter un document, deux documents, que nous pourrions regarder ensemble, étudier ensemble, lire ensemble, analyser ensemble, autour de la question qu'est-ce que le jeu est supposé faire à ceux qui jouent ? C'est-à-dire quel effet, ou au contraire, quel réduit cela pose-t-il ou demande-t-il de la part de ceux qui jouent, dans la problématique que j'ai précisée tout à l'heure. Donc ce seront, j'espère, des véritables séances de séminaire, où nous aurons des questions à adresser, à la fois des questions pratiques, des questions factuelles, et puis des questions touchant ce que nous avons essayé de déterminer ici comme une articulation entre la question du jugement et la question du jugement. Pour finir, c'est le quatrième point que je voudrais vous soumettre. Je suis un peu long aujourd'hui, en principe je suis un peu moins, mais il m'a semblé que tant qu'à faire, il était mieux de vous donner un peu de matière pour lancer ce travail. Je vais venir évidemment à une question que j'ai évoquée allusivement tout à l'heure, la question qu'on pourrait appeler le spectateur en excès ou le spectateur supplémentaire. Évidemment, le spectateur supplémentaire, c'est une formule d'allure d'Héridienne, le supplément de fonction spectatrice. Parce que cette fonction spectatrice que nous allons supposer méthodologiquement qu'elle est suspendue pendant un temps, évidemment, elle va se reglisser, elle se reglisse. C'est tellement évident qu'on le dit tout de suite, pour qu'on n'ait pas l'air de découvrir autre chose, comme dit l'Italien. Elle va se reglisser tout de suite, et par plus d'une fente. Alors, deux choses. D'abord, un théâtre sans spectateur, disons. Un théâtre sans spectateur. Mais c'est toujours un théâtre sans spectateur, sauf. J'en parlais à l'instant dans le cas de Brodsky. Sauf quoi ? Alors, je cite au moins trois exemples, trois exemples et demi et une dérivation. Premièrement, il est très rare, mais ça demandera d'être vérifié. Il est très rare que ce spectacle, que ce travail, qu'il s'agisse du travail ancien, pédagogique, qu'il s'agisse du travail expérimental, par exemple, il est très rare que ce travail ne se mette pas, par moment, à l'épreuve d'une représentation ou présentation. Par exemple, si on prend un exemple, on pourrait voir que Brodsky faisait de temps en temps des présentations à Pompédère. Voyez. Alors, devant un auditoire sélectionné, limité, etc. Y a-t-il jamais, et en quel sens, est-ce qu'il faut aller chercher dans le cadre d'un théâtre plus clinique, plus, je ne sais pas, c'est une question que je me pose et que je vous pose, y a-t-il de véritables expériences de théâtre sans aucun spectateur, et en particulier sans aucune représentation? C'est une question que je n'ai pas de réponse, je la pose. Donc la représentation ou la présentation qui est en général tout de même faite. Deuxièmement, et c'est bien évident, la présence des formateurs ou des maîtres ou des metteurs en scène ou du pédagogue. Alors on demandera, moi j'ai une question que j'ai à proposer, la présence par exemple des maîtres, des formateurs dans le travail pédagogique. La présence du maître de formation, non seulement Brodsky lui-même, par exemple, qui à ma connaissance ne participait pas au jeu qu'il organisait, mais dans un travail expérimental, la présence de celui qui le reçoit ou le dirige ou l'anime, la présence de Brecht, au fond, dans les pièces didactiques, que je sache, il ne jouait pas. Donc, il y a bien là une fonction qu'il faudra dans chaque cas interroger en se demandant comment les uns et les autres l'assument ou la pensent. Et puis enfin, c'est un cas extrêmement intéressant, je vais vous dire pourquoi, dans la fiction de Diderot, comme vous savez, c'est un théâtre absolument spectateur, pour ceux qui se souviennent de ce texte, c'est une pièce de théâtre qui est représentée dans une famille, c'est une fiction, une histoire, c'est ce que Diderot appelle un petit roman. Une famille qui se rejoue un événement auquel elle a enfin, qui a été très important pour elle. Il se rejoue tous les ans à des fins commémoratrices, dans le même lieu, avec les mêmes costumes, en essayant de dire le même texte que ce qui a été dit ce jour-là. C'est une espèce de passage à la limite, hein, d'un théâtre qui serait purement répétitif, à quelques nuances. Certaines sont très importantes, parce qu'il y a un des participants, même le participant principal, est mort. Donc on ne peut pas jouer, il faut bien quelqu'un qui joue son rôle, il faut un acteur. Et puis, il y a une différence, c'est que cette affaire, si nous la connaissons, c'est parce qu'en fait, il y a un spectateur caché, qui est le écrivain de l'affaire, on peut l'appeler Diderot, si vous voulez. Hein. Un spectateur caché qui est planqué dans un corps. Donc nous regarderons, si vous voulez bien, comment ça marche dans le texte de Diderot. Comment cette supposition d'une abolition du spectateur a pour contrepartie une présence effective du spectateur. Et puis, c'est là que la dérivation Eisensteinienne a tout son intérêt, parce que Eisenstein, lisant ce texte et le commentant dans son texte du droit par le cinéma, c'est un texte assez peu connu. J'ai eu la surprise de constater que même Youssef ne le connaissait pas, enfin il l'a lu immédiatement, à peine lui avons demandé. Eisenstein considère que la position du spectateur qui n'en est pas, du spectateur qui n'en est pas un, c'est une anticipation de la position de la caméra. C'est-à-dire que c'est ce que deviendra la caméra dans l'histoire ultérieure du théâtre. Et donc Diderot pourrait en quelque sorte préfigurer, anticiper, imaginer le cinéma, et qu'inversement, le cinéma aurait répondu à une fiction antérieure. Voilà. Et puis la deuxième, dernière chose, c'est que nous demanderons pourquoi, et nous essaierons d'imaginer des suppositions, éventuellement des modélisations, de la question de savoir pourquoi ce spectateur revient. C'est quand même une question qui est très intéressante, et tout ce que j'ai dit au début, me semble-t-il, montre que je n'ai pas envie de simplement répondre, parce qu'il en faut toujours, parce qu'il y a toujours ça, parce que le théâtre, c'est le spectateur, ça, on cherche le contraire, hein. On cherche à aller de l'autre côté. Bien. Mais en fait, alors, il y aurait des réponses simples ou simplistes. La première étant, je le dis parce que c'est une pierre dans mon propre jardin, que le théâtre, il n'y a de théâtre que d'adresse. C'est l'adresse même. J'ai fait un texte sur l'adresse, hein, qui s'appelle Lettre au directeur du théâtre, qui est un texte adressé. Un texte qui a été écrit pour la scène, mis en scène. Avait joué par Patrick Lemour, qui est ici, en tant qu'il n'était pas tout seul, mais il en assumait une grande partie. Donc, bien sûr, le théâtre, c'est l'adresse. Mais ça ne suffit pas, à mon avis, à rendre compte du problème que nous nous posons. D'abord parce qu'il y a des adresses internes, parce qu'il y a une adresse dans le jeu. On s'adresse aussi à quelqu'un avec qui on joue. Et donc, c'est vite dit de dire qu'il faut l'adresse. Et aussi parce que il faut continuer de façon incessante, inlassable, nous disons que moi j'y suis depuis ces longues années, il faut continuer à nous demander qu'est-ce que ça veut dire, ça, adresse. C'est très étrange, Bernard s'appelle beaucoup, mais bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, l'adresse? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi s'agit-il? De quel dressage? De quelle droiture? De quelle direction? De quel droit il s'agit? Je me rappelle un échange avec Derrida, à la soutenance de la méditation, qui avait été vif, autour de cette affaire. J'étais là, je ne sais pas si tu as entendu, parce qu'on n'entendait rien, mais voilà. Bien. Il y a deux autres raisons que je peux vous soumettre, à titre comme ça, pour donner du matériau. La première concerne l'affaire de la formation. À former des comédiens, former des êtres humains, former des esprits, former des âmes. Par le théâtre pédagogique, c'est donner forme, c'est donc construire, organiser, c'est supposé être ça. Mais je voudrais vous proposer, vous me demander, dans une tonalité comme ça, dans la formulation, elle est un peu différente, s'il n'y a jamais une formation qui ne soit pas une formation devant. Est-ce que le fait d'être devant, là-devant, devant, j'ai pas envie de dire devant qui ou devant quoi, mais devant, hein, exposé, est-ce que cette présence, le pré de la présence, le devant, devant l'être, de l'être devant. Est-ce que on peut imaginer une présence, une formation qui ne soit pas une formation devant? Et en quel sens ceci engage toute formation possible de quelque actant ou agissant qu'il s'agisse? Je ne parle pas ici du contrôle de la formation, encore que ça, parfois ça interfère, mais je parle de son contenu plus intime. Donc, vous voyez, ce n'est pas exactement le modèle dont je parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, je demandais, est-ce qu'il y a un jugement esthétique chez l'acteur? Est-ce qu'il y a un jugement de goût? C'est une affaire. Maintenant, on est plutôt sur un versant qui, on pourrait dire, est un peu plus éthique, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a de toute pratique, quelle qu'elle soit, y a-t-il une pratique qui ne soit pas une pratique devant? Et une pratique devant une certaine forme d'extériorité à la pratique, devant quelque chose qui s'extrait ou se retire apparemment de la pratique. Est-ce qu'il y a une pratique, si vous voulez, qui serait une pratique exhaustive, une pratique saturante? Est-ce que la pratique ne demande pas quelque chose qui l'excède, le spectateur en excède, quelque chose qui lutte? Et pour finir, c'est un exemple que je vous donnerai de ça. Il y a une idée très passionnante chez Peter Zondi que je vous dis en quelques mots et que plusieurs ici m'ont déjà entendu parler. Il y a une idée passionnante qui est qu'à un certain moment, des gens ont inventé en Europe quelque chose qui s'appelait le drame. En gros, un peu ce que nous appelons le théâtre, mais pas seulement, c'est précisément le drame, et que ça reposait sur une idée folle. Cette idée folle était celle-ci. L'idée des inventeurs du drame, dit Peter Zondi, aurait été d'imaginer une expérience dont tout le contenu soit, dont la totalité du contenu soit intersubjectif. Je prends le mot de Zondi. Hein. C'est-à-dire une expérience qui n'existerait, où il n'existerait ni objectivité pure, c'est-à-dire présence du monde comme monde, ni subjectivité intégrale, c'est-à-dire intériorité, intimité, alors dans les termes de Zondi, qui est un poéticien, ni épopée, ni lyrisme, l'épopée étant la présentation du monde et le lyrisme étant la présentation du fond de l'être, mais une expérience dont la totalité se tiendrait dans l'interlocution entre deux ou plusieurs sujets. Non pas qu'il n'y ait pas de monde ou qu'il n'y ait pas d'intériorité, mais le monde et l'intériorité ne seraient convoqués que dans la mesure où ils sont présents dans le dialogue, dans l'interlocution. Le drame, ce serait cette idée folle. Cette idée, au fond, délirante, d'imaginer une présentation de la vie humaine sans le monde, sans le soi, mais uniquement dans l'entre-soi, dans l'inter-soi. Ce serait cette idée démentielle. C'est une intuition de Peter Zondi, une intuition post-hegelienne, mais une intuition de Peter Zondi que je trouve d'une puissance inouïe et avec laquelle on n'a pas fini de s'expliquer. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces textes, que Peter Zondi évoque ce modèle qu'il appelle le drame absolu, non pas pour dire que c'est comme ça, mais pour dire qu'à peine posé, c'est en crise. On raconte une longue histoire qui est l'histoire de la crise de ce modèle. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est se demander ceci. Est-ce qu'un tel espace, l'espace du dialogue, a le moindre sens ou la moindre possibilité sans quelque chose comme un tiers? Alors évidemment, ici, il y a Alain Duvel qui est entre autres psychanalyste, et donc je vais évidemment, je donne ici un écho du côté de la psychanalyse, et en particulier du côté lacanien. Mais y a-t-il, du côté freudien tout simplement, peut-on imaginer? Et comment l'imaginer ou ne pas l'imaginer, quelque chose comme un espace d'interlocution, quel qu'il soit, qui n'est ou n'y est pas une extériorité, une tierce position. Et ça nous renverrait à la question dont nous parlons. Voilà, j'ai fini et je vous propose, si vous voulez, j'ai envie de faire la proposition suivante. Si ça vous convient, je pense qu'on pourrait, par expérience, le vieux briscard des séminaires que je suis, je vous propose de nous interrompre très brièvement. Je ne vais pas dire tout de suite qui a des questions, qui a quelque chose à dire. Nous interrompre 3-4 minutes, peut-être 5 minutes, pour respirer. et puis de reprendre notre conversation immédiatement après, si vous voulez bien.
Ça va, Bernard ?